France Inter.
Je ne vous ai pas présenté mes bons voeux.
Ah non,
hein, je me semble.
Je les attendais.
CO2, mon amour.
Bah, je vous les présente alors.
Je voulais vous, je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année.
Avec Denis Chesson.
Voilà, plein de bonnes choses.
Bah oui, pour vous aussi.
Sur France Inter.
Eh ben oui, il faut pas hésiter avec les vœux. Vous savez, c'est un peu comme les lasagnes, il en faut plusieurs couches pour que ça puisse vraiment percoler. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Guillaume Roux à la technique, Camille Blanès est notre collaboratrice et Andrea Lechêne réalise l'émission. Dry January, janvier sobre, janvier sec, avec la désapprobation des viticulteurs, déjà dans le rouge, qui se boit de moins en moins. Alors, imaginons une série de choses quasi impossibles aujourd'hui, un mois sans. Janvier sans pesticides, que vous retrouverez dans votre eau et que toute la société paiera plein pot. Janvier sans dauphins, victime collatérale des méthodes de pêche peu adaptées. Janvier sans buter des loups qui savent le langage de la lune. Janvier sans avions, bon là c'est pas bien barré parce que l'offre est pléthorique et alléchante et nous on est comment ? Comme des gamins gâtés devant la vitrine avec les yeux qui brillent. Janvier sans voiture, ah là c'est possible pour les trajets en dessous de 5 km, et oui, puisque 60% des trajets en voiture en France se font sur moins de 5 km. Donc là, c'est pas punitif, on peut trouver. Janvier sans convoiter le territoire des autres. Mon joli Groenland, terre verte des Vikings. Eh bien, profites-en, car bientôt on fouillera ton ventre, on fera jaillir des minerais, on jonglera avec l'uranium, le plomb, l'or, le zinc, le fer, platine, métaux rares. Et tout ceci sera nickel, idéal pour les batteries et les éoliennes. Ah oui, parce que c'est ça la transition énergétique. Gagner d'un côté en dégueulassant ce qui n'est pas sous nos yeux de l'autre. Cela ne baissera pas la température du globe et les terres transformées en casinos géants accélérons les pleurs de tes rivières de glace. Dans 6 mois, on espère éviter un dry summer, donc un été sec. Mais c'est le climat qui décidera pour nous, car si on a eu la main pour le dérégler, il faudra la garder pour le réparer. Allez, on trace avec un bâton dans le sable les plans d'un monde meilleur. Un monde encore possible. On lève le regard vers les étoiles et la splendeur des cieux et puis on y va. Redresser la tête vers le ciel, ça fait fonctionner, vous savez, les cervicales des foules, tête baissée sur les smartphones, comme sous les fourches codines d'une société de contrôle qu'on nomme modernité. Il semblerait que le regard ne porte plus vers les hauteurs, les nuées, la lumière, le soleil, mais sait-on jamais. Janvier sans massacrer le vivant, est-ce possible ? La nature sauvage, c'est l'espace de loisirs d'un grand jeu de pistes vidéo auquel l'univers Marvel nous a peu à peu habitués. Peuplé de magnifiques héros triomphants, l'imagination artificielle est sans limite. Ils mangeront le monde, qui ça ? Poutine et Skill terrible, Goldo Trump, Taliban Gator, Elon Musk SpaceX, China Yuping, Super Zuckerberg. Eh oui, tous envoient des mandales intergalactiques au-dessus des populations mourantes ou gavées selon le continent qui sert de décor. Saint-Exupéry, avant d'être abattu en mer fin juillet 1944, dans un avion sans armes, étincelant sous le soleil, nous l'avait prédit. La termitière future m'épouvante et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Puisque les incendies de Californie sont dus à la sécheresse des incompétents démocrates, que dans ce brasier on peut aussi jeter les scientifiques du climat, eh bien on va acclamer, bien sûr, le public, il est là. Eh oui, tout est dérégulé, tout est permis, sauf les avis contraires. Donc on va prendre notre envol, ou plutôt nous allons suivre celui d'un albatros, vous allez voir, ça va être une ronde de vœux en 3 temps, une valse entre ciel et mer, pour se faire du bien et engranger du positif. Il y aura un peu de gratin de finance, à la sauce « Je détruis moins la planète qu'avant » avec Lucie Pinson. Il y aura une jolie rasade de nature, hommage à la diversité du vivant et à la coopération pour mieux affronter le mauvais temps avec Gilles Boeuf. Et donc, je vous le disais, on va débuter par un albatros pour nous inspirer à voler différemment dans nos vies agitées. Depuis ici, Aix-en-Provence, Déborah Prado, vous êtes avec nous, conférencière, docteur en écologie des populations. Vous êtes une scientifique, donc spécialiste des albatros, et vous nous offrez donc des vœux d'une belle envergure.
Donc moi, mes vœux pour 2025, c'est quelque chose de très sincère que je veux vous apporter, où je me combine ma posture de scientifique, ma posture de conférencière et ma posture de poète qui émerge, je ne sais d'où. Le premier message de la part des albatros que je veux vous transmettre, c'est « Prenez appui sur les vents contraires pour avancer ». Parce que les albatros, vous le savez peut-être, et je vous invite à faire ce que je, avec votre corps, ce que je vais vous guider à faire. Les albatros sont les plus grands oiseaux du monde.
Ce sont des grands voiliers, énormes.
C'est ça, 3,70 m d'envergure. Donc vous, quand vous étendez vos bras, ils ont l'envergure de votre hauteur. Donc allez, 1,70 m en moyenne. Donc c'est plus de deux fois votre envergure à vous. 3,70 m. Ils ont un système de blocage des ailes en vol qui leur permet de faire des milliers de kilomètres sans dépenser aucune énergie. Mais pour cela, il leur faut du vent. Il faut même se balader dans les mers les plus menaçantes du globe, comme les coureurs du Vendée Globe actuellement. Et pour cela, ils ont un vol très particulier. C'est-à-dire qu'ils vont raser la surface de l'océan à fond la caisse, quitte à parfois dessiner un trait de la pointe de leur aile sur les vagues. Puis à ce moment-là, ils remontent vers 5 mètres de haut, là où les vents sont beaucoup plus forts, et se positionnent face aux forces adverses, aux vents contraires, qui leur permettent de prendre beaucoup de hauteur d'un coup. Et là, ils regardent autour d'eux, ils vont choisir leur cap, et ils vont tourner d'un coup pour descendre avec les vents vers le cap qu'ils ont choisi. Et ça, ça fait des boucles qu'on peut observer en mer, et qui sont magnifiques à observer, qui sont à couper le souffle.
Et en fait, notre humanité, elle va très souvent sur des vents contraires, pas forcément faire avec le vent.
Exactement. Donc nous, plutôt que de perdre notre énergie à lutter contre les vents contraires, le vœu que j'aimerais émettre pour nous tous pour 2025, c'est d'apprendre à voir les obstacles comme des tremplins, à voir les situations difficiles, les changements imprévus, comme des sources d'énergie qu'on choisit d'affronter avec résilience et créativité. Quand on adopte cette philosophie, on pourrait non seulement avancer, mais aussi explorer des territoires qu'on n'avait pas imaginés.
Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers.
Et puis chez l'albatros, il y a comme tous les animaux, l'adaptation. Par exemple, c'est un animal, en général, on dit qu'il est fidèle. Mais que peut-il se passer ?
Alors, un jeune albatros, au moment où il s'envole de la colonie pour la première fois, il va passer jusqu'à 10 ans en mer. Apprendre à se nourrir, à naviguer, à survivre tout seul. Et quand il est pris, il reviendra toujours à sa colonie de naissance, qu'il retrouve par l'odorat. Il va commencer à danser, à draguer, à construire un nid pour trouver son partenaire à vie et faire un poussin par an. Donc là, ce rythme de reproduction, au final, il est assez proche du nôtre. Sauf que lui, il partage vraiment les tâches à 50% avec son partenaire.
Oui, c'est ça.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en 2025, la plus vieille albatros connue vient de pondre son 60e œuf à l'âge de 74 ans. Et leur rythme lent de vie leur pousse à voir le temps long et notamment à faire des choix qu'on n'aurait pas fait nous, par exemple. Si à un moment donné, un des partenaires ne revient pas, eh bien l'autre va abandonner son poussin pour favoriser sa survie. Il retourne à l'essentiel. Et aujourd'hui, avec les menaces qui pèsent sur les albatros, on a par exemple beaucoup d'individus qui se font attraper dans les bateaux de pêche. Et donc, il y a sur certaines colonies un déficit de partenaires. On observe alors des couples qui se forment entre des partenaires du même sexe. Donc une forme d'homosexualité pour pallier cette difficulté environnementale. On observe aussi des individus plus audacieux qui vont émigrer de leur colonie de naissance et aller explorer de nouveaux sites où, par exemple, il n'y aura plus de prédateurs introduits comme les souris qui vont manger leurs poussins. Mmh. Et un troisième élément intéressant, c'est qu'on observe des albatros qui vont se mettre en couple entre espèces, alors qu'on pensait ça impossible vu qu'ils ont des parades nuptiales complètement différentes. Donc c'est une nouvelle forme de diversité qui est arrivée là pour permettre d'avoir de la résilience à cette espèce qui, bien qu'elle soit à l'autre bout de la planète, est l'oiseau le plus en danger d'extinction au monde.
Et ça nous rappelle simplement tout ce qui se passe dans le règne animal, c'est-à-dire à la fois le territoire, la nourriture et la reproduction. Et c'est le cas donc aussi de cet albatros. Et puis un autre message, Déborah Pardo. Il s'agit de s'aligner parce que nous sommes dans un monde de turbulences, mais vraiment structurelles aujourd'hui.
C'est ça. La seule chose dont on est certain, c'est qu'il va y avoir plein d'incertitudes. On n'a pas l'habitude de vivre ça. Par contre, les albatros, eux, c'est leur quotidien quand ils sont en mer. Alors comment ils font, eux ? Eh bien, ils cultivent leur alignement. Lorsque vous observez un albatros en vol de face, c'est comme une ligne droite extrêmement fine où tout est aligné parfaitement pour réduire ce qui s'oppose à leur fluidité au final. Mmh. Et le seul truc que vous voyez, c'est un regard déterminé, vers l'avenir. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on souffre en France d'une épidémie de burn-out, et je pense qu'elle est due à ce désalignement. Parce que c'est dur, physiquement, moralement, d'être en manque de sens, d'être en dissonance cognitive entre nos actes et nos valeurs profondes. Alors, que faire ? Déjà, se poser quelques minutes sur l'eau, pour faire le point, les valeurs au cœur de notre histoire. Par exemple, dans ma famille, elle a été déracinée d'Égypte, d'un côté, et d'Algérie, de l'autre, pour traverser la Méditerranée et arriver dans les quartiers nord de Marseille. C'est le respect, l'optimisme, l'indépendance et la curiosité qui sont les valeurs qui pulsent dans nos veines. Et vous, est-ce que vous avez fait ce travail de regarder dans les valeurs qui pulsent dans vos veines ? Une fois que vous avez identifié ça, écoutez vos tripes, votre intuition, vos émotions, toutes ces choses que la société en contrôle que nous avons créée nous a un petit peu interdit de faire, mais qui en réalité sont la solution optimale pour retrouver l'alignement dans un monde incertain. Et à la fin, comme le jeune albatros de 3 mois qui va partir en mer la toute première fois de sa vie, en 2025, je vous invite à faire comme lui. Rapprochez-vous du bord de la falaise, ouvrez grand vos ailes, sentez le vent dans vos plumes, votre cœur qui accélère, tâtonnez un peu avec vos pattes palmées et faites le grand saut vers des horizons plus justes.
Eh bien, un grand merci, Déborah Pardo. Ce que l'on entend, c'est en fait vous nous incitez à ne pas avoir peur et donc à déployer nos ailes. Et c'est ce que nous allons tenter donc de faire à la fois individuellement, mais aussi collectivement. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter ? Vous repartez en Antarctique, j'imagine ?
Oui, j'y retourne dans un mois. Je laisse ma famille 6 semaines pour de nouvelles aventures.
Bon, ils voleront de leurs propres ailes, hein, c'est un petit peu ça.
Exactement. Et moi, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un bon vent pour cette année 2025.
Merci à vous, Déborah. Merci donc pour ces ailes de géant qui les empêchent de marcher, mais pas de voler, et de regarder donc l'avenir face aux vagues. Restez avec nous, on continue cette ronde de vœux, on a encore besoin de parler à la fois de finances, d'économie et aussi de nature.
Overcoat to tell you the night is, but life is a mystery, no key to crack the mystery. When I woke up, you were gone. I lay my head back down, the ghost ranch glowing in my inner eye. What do I do about my destiny now? Faced with the bow, headed beauty, only I receive it how? Clearly the lost transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line. Now I'm stretched out beneath the dome and dreaming. Now I'm stretched out beneath the dome and dreaming. Stretched out beneath the dome and dreaming. I understand it, but I cannot explain. What do I do about my destiny now? Faced with the bowed headed beauty, only I receive it how? Clearly the last transmission went burning.
De la country folk, donc assez rassée de cette musicienne donc anglaise, Flora Eberg, dont la playlist choisie par Thierry Dupin, ça s'appelait Code. Les mains dans le cambouis, mais c'est indispensable, on va parler donc de la finance, l'économie, c'est-à-dire c'est l'avoir, nous a complètement encapsulé notre être, mais il y a des tas de choses quand même tout à fait intéressantes avec cette histoire-là. Alors Lucie Pinson est créatrice et directrice de l'ONG Reclaim Finance. Donc on en parle avec vous, et dites-nous d'abord effectivement ce qu'est votre ONG.
Reclaim Finance, on s'intéresse à la fois à analyser leurs activités, à souvent les dénoncer, mais aussi à mettre en place des recommandations qu'on présente aussi bien aux acteurs financiers privés qu'aux décideurs publics, notamment au niveau national ou européen, pour préconiser l'adoption de nouvelles mesures ou politiques en faveur de la transformation de la finance, de quoi on l'espère transiter vers des sociétés soutenables.
Comment vous faites ? C'est-à-dire qu'on est face à des puissances absolument incroyables. Quels sont les arguments en fait qui les touchent ? Est-ce que c'est évidemment l'opinion publique qui peut les faire bouger ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est la pression citoyenne, hein. Soyons quand même sincères, hein. On a réussi à arracher des victoires, à imposer des mesures aux acteurs financiers qui sont aux antipodes de leur logiciel, hein. Lorsqu'un acteur financier arrête de financer des entreprises qui développent des nouveaux projets dans le secteur du charbon, par exemple, ce n'est pas directement pour se protéger des risques financiers liés au secteur, notamment parce que les entreprises qui sont derrière ces activités, des fois, n'ont qu'une petite partie, finalement, de leurs revenus qui sont générés du charbon. Donc même si demain le charbon est interdit et qu'il y a un risque financier à être exposé à une entreprise qui développe ces actifs-là, c'est pas toute l'entreprise qui va faire faillite. Et donc finalement, la banque va retrouver sa mise de départ. Si on a réussi à faire ça, c'est vraiment parce qu'on a su mettre la pression sur les acteurs financiers, créer un risque réputationnel qui, lui également, coûte cher, mais de manière différente.
Je suis pas Nasdaq, je vais tous les niquer. Toujours plongé dans le CAC 40, pour mon ordi et mes sushis. Je parle anglais, je suis toujours bronzé. Dans des hôtels et des cocktails, la vie est belle.
Rappelez-nous, Lucie Pinson, quand même quelques victoires.
Alors, juste sur les deux dernières années, on a convaincu énormément d'investisseurs à arrêter d'investir dans les entreprises comme Total Energy qui développent des nouveaux projets d'énergie fossile. Donc, on est quand même à 2400 milliards d'actifs couverts par de telles politiques. De manière similaire, BNP Paribas, Crédit Agricole, ne structure plus d'obligations, qui est vraiment un service financier hyper stratégique pour les entreprises comme Total Energy, pour les entreprises productrices de pétrole et de gaz. Et dans la même veine, pour rester sur la thématique énergie fossile, on a tordu le bras à Bercy, ministère des Finances, pour le pousser à exclure ces entreprises-là d'un label qui pèse 800 milliards d'encours d'actifs.
C'est l'or, il est l'or, monseigneur, il est 8 or, oui, oui, oui.
Il en manque une.
Vous êtes sort ?
Tout à fait sort !
Ah ben ça alors !
Qu'est-ce que l'on peut faire à titre individuel ? Beaucoup de personnes nous écoutent, qui ont de la chance donc d'avoir une épargne, d'autres malheureusement n'en ont pas, mais qu'est-ce que l'on peut faire aussi avec ça ? Est-ce qu'on peut vérifier quand même que notre argent soit à peu près bien employé pour cela et ne détruise pas la planète ?
Alors en effet, c'est difficile de mobiliser la population sur la finance parce que la finance est souvent présentée comme un sujet à laisser entre les mains d'experts, un sujet hyper technique qui ne nous concerne pas. Or la finance, encore une fois, elle façonne nos économies, le monde dans lequel on vit et notre capacité à maintenir les conditions d'habitabilité sur Terre. Hein. Donc il est important de s'emparer.
C'est bien de le rappeler, c'est bien ça, c'est la question d'habitabilité sur Terre.
Ah oui, oui. Donc il faut se mobiliser. Et contrairement aux idées reçues, il est possible de se mobiliser, et notamment à travers l'épargne ou les comptes courants, qui sont une bonne porte d'entrée pour que tout un chacun comprenne l'importance du levier financier. On peut changer de compte de banque, d'établissement bancaire à l'échelle individuelle.
Il dit ce crédit coopératif, la NEF, etc. Et puis d'autres quand même aussi, des mutuelles aussi qui tiennent
la route. Tout à fait. Alors ça, c'est tout à fait possible. Vous allez sur le site change de banque, alors avec des petits tirets entre chaque mot.org. Et vous allez trouver énormément de moyens d'agir, comprendre que c'est pas tous pourris, hein, l'adage n'est pas correct. Il y a des établissements qui ont des pratiques plus vertueuses que d'autres, et donc il est possible de se diriger vers les établissements ou les produits d'épargne et d'investissement les plus verts. En revanche, il faut être quand même assez lucide sur le fait que la majorité de la population n'a pas beaucoup d'argent de côté, et donc il va falloir être sacrément nombreux pour agir, sauf si on s'intéresse aussi à transformer les produits d'épargne qui touchent pas seulement notre propre compte bancaire, mais qui touchent l'argent d'un certain nombre. Et c'est pour ça qu'à Reclaim Finance, on s'intéresse notamment à l'épargne salariale, puisque c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont représentés à travers les fonds d'épargne salariale qui sont mis en place dans énormément d'entreprises. Et il suffit d'être dans un petit collectif de salariés pour réclamer le verdissement des produits d'épargne salariale qui sont proposés à l'ensemble des salariés d'une grande entreprise. Et donc ça, vraiment, on pense que c'est une action à mener qui, on l'espère, sera suivie par énormément de salariés et qui sait, peut-être que ce sera le début d'une action par ces salariés pour également transformer leur entreprise en profondeur.
Le fric, pom, 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 magique, pom, 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 l'artiche, pom, 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 fortiche, pom, 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 la bande, pom, 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 la blonde, pom, 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 la paye, pom, 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 l'oseille, pom, pom, pom.
Alors, il y a aussi un levier quand même extrêmement fort, c'est celui des assureurs et des réassureurs, donc ceux qui assurent nos banques et nos mutuelles. Et là, on voit bien qu'il y a maintenant, il y a des coins du globe où on ne veut plus l'assurer. Ou bien à ce moment-là, on va le faire, mais ça va être une prime fois 100, soit 200, 500%, etc. Donc c'est peut-être comme ça que ça va bouger.
Alors oui, et c'est pas seulement loin de nous hein, que ça se passe. On sait aussi en France
chez
que
nous,
de plus en plus de
des communes qui sont pas,
oui. ont du mal à s'assurer. Voilà. Il y a le gonflement des argiles qui va ne faire que prendre de l'ampleur. Hein,
11 millions de personnes peuvent être touchées. 11 millions. Aujourd'hui, on a 3,5 millions. Mais potentiellement 11 millions.
Donc c'est énorme et en effet face à ça, on a un risque que les assureurs et aussi les réassureurs ne choisissent pas de revoir leur modèle d'assurance pour en mettre en place un qui serait plus juste, plus solidaire aussi face à ces personnes impactées par le dérèglement climatique qui sont rarement celles qui ont contribué le plus. Or, ce qu'on voit, c'est que les assureurs ont comme premier réflexe de juste gérer le risque et de monter les primes, d'augmenter les primes, donc rendant l'accès à l'assurance impossible pour les revenus les plus modestes, ou même de déserter certaines régions. Et donc ça, il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment que les sociétés d'assurance et de réassurance respectent d'abord le premier principe, ne pas nuire, et donc arrête d'alimenter le dérèglement climatique en assurant et réassurant des actifs fossiles qui n'ont pas leur place dans un monde où le réchauffement est limité à 1,5 degré. Et bien entendu, il faut aussi mettre à contribution les grandes sociétés d'assurance qui ont les moyens de contribuer à protéger les populations en première ligne des impacts du dérèglement climatique. AXA reverse plus de 70% de ses profits à ses actionnaires. C'est bien plus que Total.
Ah oui.
Donc il y a de l'argent. La question est d'aller le chercher pour s'assurer que, j'aime pas trop cette expression, mais on laisse personne de côté face à l'urgence climatique.
Qu'est-ce qui vous anime profondément, vous, Lucie Pinson ?
Alors, moi, à la base, ouais. si vraiment j'ai fini directrice d'ONG, c'est que déjà, j'allais pas bosser pour une entreprise. Moi, très vite, j'ai été animée par l'envie de me battre contre les injustices, avant tout sociales, hein, pas climatiques ou environnementales. Et je supporte pas qu'on piétine les droits des populations alors qu'une minorité s'empiffre à côté. Et donc ça, vraiment, cette colère, moi, je l'ai toujours transformée en énergie positive, et il se trouve que c'est aussi très jouissif de savoir faire bouger des grandes institutions financières ou politiques.
On vous souhaite une très belle année 2025 hein, pour Reclaim Finance et puis toute l'équipe et puis vous-même aussi. À très bientôt.
Merci, merci et bonne année Denis.
Eh bien, après un albatros, après Lucie Pinson, un autre oiseau dans notre triptyque, non, parce qu'il s'appelle Gilles Boeuf, ça va être dans quelques instants, biologiste de son état et formidable raconteur du vivant.
Dans la nuit, les oiseaux perdent leurs plumes, au clair de la lune, les avions s'allument. Sur prairies, sur forêts, sur coccinelles, poussent des cancers cruels. La ville est nouvelle, elle est nouvelle. Le monde change de peau. Sera-t-il laid ou bien beau? Pouvait
verre de couleur peinture ou de verre nature. Le monde change de peau, roudoudou et berlingot. Sera-t-il doux et sucré comme la liberté? Qui joue quand les enfants s'amusent à mettre des pierres, des méduses sous leurs pieds? Dans les journaux et sur les ondes, on sent qu'un monde vient au monde. Qu'il soit trop tard ou trop tôt, le monde change de peau. Le monde change de peau. Où sont-ils les petits jardins bucoliques, petite place de la République avec son kiosque à musique? Sous préfet et jours de fête, saxophone et clarinette, ça sent la moulinisette, oh ça sent la nisette. Le monde change de peau, sera-t-il laid ou bien beau? Couvert de couleur peinture ou de vert nature? Le monde change de peau, roudoudou et berlingot. Sera-t-il doux et sucré comme la liberté? Qui s'est caché dans du ciment entre toi et le cœur des gens fatigués? Comment s'appelle ce nouveau-né sorti de ce ventre étonné? Mais qu'il soit laid ou qu'il soit beau, le monde change de peau. Le monde change de peau. Le monde change de peau, roudoudou et berlingot. Sera-t-il doux et sucré comme la liberté? Qui s'est caché dans du ciment entre toi et le cœur des gens fatigués? Comment s'appelle ce nouveau-né sorti de ce ventre étonné? Mais qu'il soit laid ou qu'il soit beau, le monde change de peau. Le monde change de peau.
Celle-là aussi, c'était une chanson quand même assez visionnaire, donc il y a une quarantaine d'années, me semble-t-il, signée Jonas pour la musique et puis donc Souchon pour les paroles. Le monde change de peau, notre triptyque, on continue notre ronde de vœux avec Gilles Boeuf, biologiste, professeur d'université, invité au Collège de France, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, plein de choses, biologiste marin et passeur d'histoire du vivant. Bonjour Gilles Boeuf.
Bonjour Denis. D'abord, je pense qu'il faut le raconter dans la réalité, ben, scientifiquement, mais aussi avec de l'humour. Je pense que par l'humour, beaucoup de choses passent très très bien, en fait. Les gens se rendent compte qu'on amène nos interlocuteurs à s'auto-ridiculiser de leur comportement. Je prends un exemple tout bête. On va à la plage, à la même heure, nous qui aimons le vélo beaucoup avec Denis, l'arrivée de l'étape du Tour de France, on se précipite sur la plage de Bayonne-sur-Mer et on se baigne. Et on a payé très cher pendant des mois pour économiser, pour venir. On est belge, allemand, hollandais, parisien, italien. Eh bien, on va se baigner exactement à l'heure du pic des bactéries fécales dans l'eau. Voilà. Et celui qui se frotte les mains, c'est le gynécologue et le dermatologue. Voilà. Alors ça veut dire que, après je dis ça aux gens, ah bah oui, vous avez raison. Je dis, bah alors, n'allez pas vous baigner tous à la même heure et vous verrez que ça se passera très bien. J'achète aussi une pomme que je vais manger. Elle n'a pas de goût. Ou ma tomate. Mais je vous ai vu l'époque de l'année. Achetez vos tomates à une époque où elles ont du goût. À la saison des tomates. Donc tout ça, c'est dire aux gens que les petits gestes de tous les jours qui nous donnent du plaisir. Finalement, on a oublié tout ce qu'on fait par jour, qui en fait n'ont pas un but financier ou de ramener quelque chose, mais qui donnent du bonheur et du plaisir, sont largement aussi importants, sinon plus que les autres. Donc, pour se persuader les gens, leur dire qu'ils sont vivants, qui font partie d'un système vivant, ils sont remplis de bactéries, les trous de nez, les cheveux. Et puis c'est comme ça, et puis c'est super bien.
Et nous sommes remplis de flotte aussi d'eau.
Mais complètement, un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau quand même. Hein. Donc il faut dire que notre cerveau, c'est 80% d'eau liquide. Ça veut dire que si on admet ça, on comprendra qu'on ne peut pas ne pas admettre qu'on s'inclut dans ce vivant, qu'on ne mange que cela, qu'on coopère qu'avec ça. Ça change tout, parce que du coup, on fera beaucoup plus attention. Parce que les trois gros défauts de l'humain, on les connaît, hein. La prévoyance, on a fait des voitures qui consommaient 1 litre de carburant par kilomètre, voilà. C'est ahurissant. Et maintenant, on a du carbone partout, on ne sait pas quoi en faire. C'est l'arrogance, souvent. L'humain est tellement supérieur, ce qui est archi faux. On arrive beaucoup moins vite que d'autres animaux, et puis on ne vole pas du tout. Et en plus, on saute beaucoup moins loin. C'est quand même pas mal, hein. Et enfin, la cupidité. Le fait que l'humain a cette hubris, il veut ramasser de plus en plus, nous amène à regarder un petit peu sur nous-mêmes, pas pour se dire qu'on est absolument dominateur et mieux que les autres, mais qu'on est inclus dans un système. Et ça change beaucoup de choses. Donc, dire aux jeunes qu'ils sont là-dedans, qu'aujourd'hui, finalement, on peut se pâter son portable quelque temps, qu'on a envie de vivre différemment, qu'on aime nager, sauter, courir avec sa copine, avec son copain. Et ça, c'est largement aussi important que tout le reste, hein, de vouloir accumuler de l'argent.
On sait qu'on peut agir, d'ailleurs c'est ce que nous dit l'ADEME, maximum sur 25%, voire 30% de ce qui est possible. Et le reste, si on ne change pas, donc, et avant tout peut-être des règles financières, ça va être assez compliqué. Tout est fait quand même en direction à la fois de la propriété et de l'économie.
Complètement. Mais vous savez, la nature n'est pas dénuée d'économie. Par contre, elle fait tout avec parcimonie. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le vivant travaille vraiment différemment. Hein. Et puis surtout, s'il est là depuis aussi longtemps, c'est qu'il a accepté de changer en permanence. Et nous, on ne change toujours pas. Donc c'est compliqué pour vous répondre, Denis, c'est qu'effectivement, la principale, ce n'est pas une incantation, mais on doit changer. Aucune espèce vivante ne s'est adaptée depuis que la vie est sur la Terre sans accepter de changer. Et nous, on a quand même beaucoup de comportements, de freins au changement. Mais ce qu'on sait, c'est Einstein qui le disait dans les années 30, il disait en fait, aujourd'hui, comment voulez-vous résoudre des problèmes avec les mentalités qui les ont créés ? C'est super intéressant. Il disait aussi, on ne peut pas s'adapter à des situations qui changent et qu'on a en grande partie générées sans accepter de changer, en faisant comme on faisait avant. Donc on change tous ensemble, collectivement, dans la joie, dans le plaisir de vivre un avenir. Et puis quand on met un peu de vivant là-dedans, on est émerveillé, bien sûr.
Alors, vos émerveillements à vous, parce que je sais que vous êtes donc aussi le président de la forêt de Massane. Nous sommes dans une réserve, nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, qui ont bien souffert, parce que donc cette réserve-là, elle prenait entre 1200 et 1300 millilitres d'eau donc, par an. Ça a été 650 à 700, donc c'était un choc incroyable. Et en même temps, ce lieu est une folie en matière de biodiversité de nature.
Complètement. Et justement, c'est là qu'on trouve des espoirs dans notre système. Plus, en fait, le système est biodivers, plus il y a d'espèces. Alors, dans deux sens, hein. Le nombre d'espèces dans un lieu, mais au sein de chaque espèce, une diversité génétique. On a perdu au niveau agricole, hein. Les clones, c'est une catastrophe, ça, pour l'évolution, bien évidemment, puisque même cause, même conséquence, hein. Tel virus, telle précipitation aura le même résultat. Donc, si on garde de la diversité, un, ça produit beaucoup plus de matière organique, donc nos sols sont beaucoup plus riches, hein. Alors, pas de labour trop profond, on discute souvent avec nos amis agriculteurs, pas non plus, bien sûr, de chimie de synthèse, pas non plus de sols qui sont laissés nus pendant la période hivernale. Deuxièmement, c'est tout ce qui touche aussi au fait que si le vivant est très diversifié, il empêche les envahisseurs d'arriver. Hein, on a vu des cas, il y a le cas des scolytes dans les forêts françaises.
Là, se multiplient, hein, ils sont très inquiets parce qu'il y en a encore des nouveaux qui arrivent.
2 à 4 par an, de nouvelles espèces qui viennent d'ailleurs. Hein. Plus les nôtres qui continuent à générer leurs problèmes. Hein. Et troisième aspect qui est super important par rapport à ce qu'on vit, c'est que si vous êtes très diversifié, vous avez une puissance de feu largement supérieure pour vous adapter dans les nouvelles conditions climatiques. Donc rien que ça donne de l'espoir. On garde du vivant. Par contre, si on amenuise ce vivant, si on le laisse partir, si on le bafoue, on le pollue, on l'enlève, ça ne marchera pas. Donc c'est là comme un espoir. Parce que faut bien reconnaître que le climat, c'est parti. Hein. On va avoir une grosse force d'inertie. Alors que le vivant, il peut très très vite se restaurer. Très très vite. Hein. Sur les pêches, vous arrêtez de pêcher, ça revient. Là, on s'arrête un petit peu, on réfléchit un petit peu. Et puis, on essaye de gérer en bon père de famille les ressources qu'on a devant nous. Ça, c'est très important. Mais le vivant est le meilleur marqueur de ce qui change, à la fois dans les aspects qu'on observe aujourd'hui qui sont inquiétants, le vivant s'effondre, mais surtout aussi dans la capacité du vivant à réagir à s'adapter et à nous étonner en permanence, parce qu'ils trouvent des astuces que nous, on n'aurait jamais imaginées, et à nous émerveiller aussi. Donc tout ça, ça fait que si on a cet espoir dans ce qu'est la vie autour de nous, y compris, en n'oublions jamais dans les écosystèmes, bon, le corail, la forêt, ok, mais notre tube digestif ou l'utérus d'une femme, hein, sont de merveilleux systèmes de résilience, d'adaptation. Et ça, il faut qu'on fasse avec. En plus, on les possède, alors on les laisse faire. Mais souvent, je dis, en fait, le meilleur système à faire aujourd'hui pour donner l'espoir, c'est foutons la paix à cette nature.
Alors, qu'est-ce que l'on peut se souhaiter, voilà, collectivement ?
Se souhaiter, c'est bon, de l'empathie, de l'amour. En fait, je me rends compte que dans toutes les campagnes que j'écoute depuis quelques années, le mot amour a disparu. Hein, aimez-vous les uns les autres, aimez les autres, même s'ils sont de couleurs différentes, plus petits, plus grands, plus laids, ouais, plus beaux. Et surtout, dans la coopération. Quand on a fait Tara Océan, j'aime bien parler de mes amis de Tara, je les défends beaucoup, on se rend compte qu'entre tous ces virus, ces bactéries et ces protistes du début de la vie sur la Terre, il y a infiniment plus de commensalisme, de mutualisme, de symbiose et d'entraide et de coopération que de compétition. La clé de la survie de l'humain, c'est finalement de respecter les autres et puis dans la coopération. Et ça marchera beaucoup mieux.
Bonne année, maman.
Oh, mon chéri.
Bonne année, Oulache.
Patricia, comment vas-tu ? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps, hein ?
Un an.
Un an déjà ?
Un an pile. Au dernier réveillon, t'étais venue avec ta mère à Strasbourg. À Strasbourg, on en fait quatre.
Ah bon ? Bon, on s'embrasse pour ce
On s'embrasse, mon Denis.
Voilà. Au bientôt, Serge Gilles.
Oui, avec plaisir.
Voilà.
Et même de l'espoir.
Mais oui, et bien oui, et puis ça, on n'en a pas fait quatre, nous, c'était ça. Bon, en tout cas, c'était notre petite ronde de vœux à la sauce CO2, mon amour. Grand merci donc à Guillaume Roux, à Camille Blanès, à Andrea Lechêne qui a réalisé et colorisé donc cette émission, à Thierry Dupin. La semaine prochaine, je vous emmène en Lorraine. Nous serons en Meurthe-et-Moselle, pas très loin de Pont-à-Mousson, avec le naturaliste Marc Mortelmans. Ça va être très intéressant. C'était dans le froid. Voilà, on se retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky et application Radio France, hein, ne vous gênez pas donc pour vous inscrire aux podcasts divers et variés et celui de CO2 mon amour. Je vous souhaite bon allez encore meilleurs vœux, mais oui, c'est encore le temps. Et puis on se retrouve donc semaine prochaine. Très bonne fin de dimanche.